je vais à la cuisine, inspecte le contenu du frigo. Il y a des tomates, un morceau de fromage, des œufs, des navets et des carottes, du lait dans une grosse jarre en porcelaine et du beurre. Je trouve aussi une miche de pain sur une étagère et m'en coupe une tranche. Il est un peu dur, mais pas mauvais. Il y a un évier dans la cuisine. Je tourne le robinet et il en sort une eau fraîche et limpide. Je m'en remplis une tasse et la bois. Puisqu'il y a l'électricité, il doit aussi y avoir une pompe pour faire monter l'eau d'un puits. Je m'avance vers la fenêtre et regarde au dehors. Le ciel est toujours bas et gris, mais la pluie n'a pas l'air de menacer. Je passe un long moment à la fenêtre. Je ne vois toujours personne dans les rues. On dirait une ville fantôme. Ou peut-être que, pour une raison que j'ignore, tous les habitants évitent de se montrer à moi. Je m'éloigne de la fenêtre, m'assieds sur une chaise. Une chaise en bois dur, toute droite. Il y en a trois identiques autour d'une table carrée cirée. Les murs passés à la chaux sont nus, sans la moindre décoration. Pas de tableau, ni de photo, pas même un calendrier. Juste des murs tout blancs. Une ampoule pend du plafond, protégée par un simple abat-jour en verre jauni par la chaleur. La pièce est bien entretenue. Je passe un doigt sur la table, sur le bord de la fenêtre, pas un grain de poussière. Les vitres sont également d'une propreté étincelante. Les plats et les casseroles dans la cuisine ne sont pas tout neufs, mais ils sont propres et en bon état. À côté du plan de travail, il y a deux plaques électriques. J'en allume une et les tortillons rougissent aussitôt. La télévision couleur, qui doit avoir 15 ou 20 ans d'âge, est encastrée dans un gros meuble en bois. Il n'y a même pas de télécommande. On dirait un vieux poste récupéré dans un rebut. C'est aussi le cas de toutes les installations électriques de la pièce, qui semblent venir tout droit de la décharge. Elles ne sont pas sales et fonctionnent correctement, mais elles paraissent vraiment usées et obsolètes. J'allume la télé et les images d'un vieux film apparaissent sur l'écran. La mélodie du bonheur. Je l'avais vue sur écran géant quand j'étais écolier. L'instituteur avait emmené toute la classe. C'est un des rares films que j'ai vus enfant. Il n'y avait personne dans mon entourage pour m'emmener au cinéma. La scène qui passe en ce moment est celle où la gouvernante Maria et les enfants font une sortie en montagne pendant que le père sévère et acariâtre, le capitaine von Trappen, est en mission à Vienne. Ils sont assis dans l'herbe et Maria joue de la guitare. Ils chantent quelques chansons innocentes. C'est une scène célèbre. Je m'assieds devant l'écran et j'entre complètement dans le film. Ma vie aurait sûrement été différente si j'avais eu quelqu'un comme cette gouvernante auprès de moi quand j'étais petit. C'est exactement ce que je m'étais dit la première fois que j'avais vu ce film. Mais personne de ce genre n'était apparu dans ma vie. Je reviens à la réalité. Pourquoi est-ce que je regarde avec autant de sérieux ce vieux film sorti tout droit de mon enfance? Et d'abord, pourquoi la mélodie du bonheur? Est-ce que cette télé est reliée à un satellite? Est-ce juste une cassette qui passe quelque part et est projetée sur tous les postes? Il doit s'agir d'une cassette, car quand j'essaie de changer de programme, je ne trouve rien. Aucune autre chaîne ne fonctionne. Ces grésillements inorganiques et ces points blancs sur l'écran m'évoquent irrésistiblement une tempête de sable. Maria et les enfants chantent toujours Edelweiss, mais j'éteins le poste et le silence envahit à nouveau la pièce. Je me sens assoiffé et vais chercher la jarre de lait dans le frigo. Je me verse un verre de ce liquide frais et crémeux dont le goût n'a rien à voir avec celui des briques de lait que j'achète dans les supérettes. J'en bois plusieurs verres et le souvenir du film « Les 400 coups » de François Truffaut me revient à l'esprit. Dans ce film, le petit Antoine, qui a fait une fugue, a faim et vole le lait distribué le matin devant une maison. Dans une scène, il le boit en s'enfuyant. La bouteille est grande et il lui faut un certain temps pour finir le lait. C'est une scène d'une incroyable tristesse. Au point que l'on se demande comment voir quelqu'un boire du lait peut être aussi triste. C'est un autre des films de mon enfance. Quand j'étais en dernière année de primaire, j'étais allé le voir tout seul au cinéma parce que le titre m'attirait. J'avais pris le train jusqu'à Ikebukuro et étais entré dans un grand cinéma. Ensuite, j'avais repris le train pour retourner à la maison. En sortant du cinéma, je n'avais pas pu m'empêcher de m'acheter du lait et de le boire. Après un dernier verre de lait, je me rends compte que je tombe de sommeil. Un sommeil écrasant, qui me donne presque la nausée. Mes pensées ralentissent, s'arrêtent comme un train arrivant en gare, et bientôt je suis incapable de formuler la moindre d'entre elles. Je vais dans la chambre, enlève mes chaussures et mon pantalon avec des gestes mal assurés, m'étends sur le lit. J'enfouis mon visage dans l'oreiller, ferme les yeux. L'oreiller a un parfum ensoleillé, une odeur nostalgique que je hume profondément jusqu'à ce que le sommeil m'envahisse. Quand je me réveille, il fait noir tout autour de moi. J'ouvre les yeux, me demande un moment où je suis. Puis mes souvenirs reviennent peu à peu. J'ai traversé la forêt, guidé par les deux soldats, et je suis arrivé dans cette petite ville où coule une rivière. Le paysage environnant retrouve sa netteté. Une mélodie que j'ai déjà entendue parvient à mes oreilles. Edelweiss. Du côté de la cuisine, j'entends des bruits de vaisselle entrechoqués. Des petits bruits familiers. Un ray de lumière jaune filtre sous la porte de ma chambre. Une lumière poussiéreuse et vieillotte. J'essaie de me lever, mais mon corps est engourdi. Un engourdissement général. Je pousse un profond soupir, regarde le plafond. Les bruits de vaisselle continuent. J'entends quelqu'un se déplacer en s'affairant dans la cuisine. Peut-être est-ce la personne qui devait venir me préparer le repas? Je parviens enfin à me lever, enfile mon pantalon avec des gestes lents, mets mes chaussures. Je tourne lentement la poignée de la porte. Dans la cuisine, une jeune fille est en train de préparer le repas. Elle me tourne le dos. Penchée au-dessus d'une marmite, elle goûte quelque chose avec une cuillère. Au bruit de la porte qui s'ouvre, elle lève la tête et se retourne pour me regarder. C'est la jeune fille qui venait chaque nuit regarder le tableau dans ma chambre à la bibliothèque Komura. C'est Mademoiselle Saeki, à 15 ans. Elle porte les mêmes vêtements qu'à la bibliothèque. Une robe bleu pâle à manches longues, mais ses cheveux sont retenus par une épingle à cheveux. C'est la seule différence dans sa tenue. Elle me regarde avec un petit sourire chaleureux. Je me sens violemment ému. On dirait que le monde s'est complètement inversé. Tout ce qui avait une forme se brise en morceaux, puis se reconstitue. Mais elle, elle n'est pas une illusion. Ce n'est pas un fantôme. Elle est là, en chair et en os, si proche que je pourrais la toucher. Debout dans une cuisine réelle, dans le soir tombant, elle prépare un repas réel pour moi. Ses seins sont légèrement renflés. Son cou est blanc comme de la porcelaine, tout juste sorti du four du potier. « Tu es levé ?» dit-elle. Je suis incapable de parler. Je ne suis pas encore remis de mon trouble. « Tu dormais vraiment profondément ?» dit-elle. Puis elle me tourne à nouveau le dos et goûte de nouveau le plat. « Si tu ne t'étais pas réveillé, j'aurais laissé le plat ici et serais reparti. » « Je n'avais pas l'intention de dormir autant, » dis-je, retrouvant enfin ma voix. « Tu as traversé toute la forêt, » dit-elle. « Tu dois avoir faim. »« Je ne sais pas. » « Peut-être. » J'ai envie de lui prendre la main pour vérifier que je peux vraiment la toucher. Mais j'en suis incapable. Je reste debout à la regarder intensément. J'entends les froissements de tissu de sa robe à chacun de ses mouvements. Elle emplit une assiette blanche du ragoût qu'elle vient de confectionner, la porte à la table. Il y a aussi une salade de tomates et d'autres crudités dans un grand bol. Et une grosse tranche de pain. Le fumet du ragoût aux carottes et aux pommes de terre me rend nostalgique. En inspirant cette odeur au fond de mes poumons, je me rends compte à quel point j'ai faim. Il faut que je me remplisse l'estomac. » Pendant que je mange avec de vieux couverts usés, elle s'assied sur une chaise, un peu à l'écart, et me regarde. Elle a un air grave, comme si elle devait s'assurer que je me nourris bien. De temps en temps, elle se passe la main dans les cheveux. « On m'a dit que tu avais 15 ans, » dit-elle. « Hum ? » fais-je en étalant du beurre sur mon pain. « Je viens de les avoir. »« Moi aussi. J'ai 15 ans, » dit-elle. Je suis sur le point de répondre « Je sais », mais finalement je continue à manger en silence. « Je te préparerai les repas pendant quelque temps, » dit-elle. « Je ferai aussi le ménage et la lessive. Tu trouveras des vêtements de rechange dans la chambre. Tu n'auras qu'à mettre ton linge sale dans le panier et je m'en occuperai. » « Qui t'a demandé de faire cela pour moi ?» Elle me regarde fixement sans répondre. On dirait que ma question a emprunté le mauvais circuit et a été absorbée dans un espace sans nom où elle a disparu. J'essaie autre chose. « Comment tu t'appelles ?» Elle secoue légèrement la tête. « Je n'ai pas de nom. On n'a pas de nom, tu sais.
Je ne peux pas t'appeler alors. C'est ennuyeux. »
« Tu n'as pas besoin de m'appeler. Je serai là quand tu auras besoin de moi. »«
Mon nom à moi ne sert à rien ici, j'imagine. »
Elle acquiesce d'un signe. « Tu es toi, et il n'y a personne d'autre. Tu es bien toi, non ?»«
Je crois, oui. » »«
Mais je n'en suis plus très sûr. Suis-je vraiment moi ?» Elle me regarde fixement. Alors, je la questionne sans hésiter. « Tu te souviens de la bibliothèque ?»« Quelle bibliothèque ? » fait-elle. « Non, je ne m'en souviens pas. Il existe une bibliothèque quelque part, mais loin, très loin. »«
Il y a une bibliothèque ici ?»«
Oui, mais elle ne contient pas de livres. »«
Qu'est-ce qu'il y a dedans alors ?»
Elle incline un peu la tête sans répondre. Cette question aussi chemine dans des circuits de dérivation.
« Tu y es déjà allé ?»«
Une fois, il y a longtemps. »«
Mais pas pour lire des livres ?»
Elle fait non de la tête. « Il n'y en a pas de toute façon. » Je continue à manger un moment en silence. Je finis le ragoût, la salade, le pain. Elle non plus ne dit rien. Elle continue simplement à surveiller mes gestes d'un air grave. « Comment était le repas ?» me demande-t-elle une fois que j'ai tout mangé. « Délicieux. Même sans viande ni poisson ?» Je lui montre mon assiette vide. « Tu vois, je n'ai rien laissé. C'est moi qui ai tout préparé.
C'était très bon. »
Je répète mon compliment. Il est sincère. À la voir ainsi devant moi, je ressens une douleur dans la poitrine, comme si la pointe glacée d'un couteau me transperçait. Mais curieusement, cette douleur atroce est aussi un bienfait, car elle me prouve que j'existe. La douleur est une encre qui m'amarre ici. La jeune fille se lève pour aller faire chauffer de l'eau. Elle prépare du thé, et pendant que je reste assis devant la table à le boire, elle débarrasse, puis se met à faire la vaisselle. Je regarde fixement sa silhouette de dos. J'ai envie de dire quelque chose, mais j'ai l'impression que les mots ne remplissent plus leur fonction de communication quand je suis avec elle. Ou alors, le sens qui les reliait entre eux s'est peut-être évanoui. Je regarde mes mains. Puis je pense aux cornouillers qui brillent sous la lune derrière ma fenêtre. C'est là que se trouvent les pointes glacées qui me transpercent la poitrine.
« Est-ce que je te reverrai ?»«
Bien sûr, » répond la jeune fille. « Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je serai là quand tu auras besoin de moi. »
« Tu ne vas pas disparaître brusquement. »
Elle ne dit rien, mais me regarde d'un air bizarre, comme pour dire « Mais où veux-tu que je disparaisse ?»«
Je t'ai déjà rencontré, » dis-je résolument. « Ailleurs, dans une bibliothèque. »
« Si tu le dis, » répond-elle en posant la main sur son épingle à cheveux pour vérifier que sa chevelure est bien attachée. Sa voix est complètement dépourvue d'émotion, comme pour me signifier que le sujet ne l'intéresse pas.
« Et je crois bien que je suis venu jusqu'ici pour te revoir. » toi et une autre femme. »
Elle lève les yeux vers moi et hoche le menton d'un air grave.
« En traversant la forêt profonde ?»«
Oui, il fallait absolument que je vous revoie, toi et cette femme. » »«
Et tu m'as rencontré ici ?»
Je hoche la tête.
« Je te l'ai déjà dit, » reprend-elle. « Quand tu as besoin de moi, je suis là. »
Quand elle a fini de laver la vaisselle, elle remet sur son épaule le sac de toile vide dans lequel elle avait apporté des provisions.
« Je reviendrai demain matin. J'espère que tu t'habitueras rapidement à cet endroit. »
Debout sur le seuil, je la regarde disparaître dans les ténèbres du dehors.
Me voilà de nouveau seule, dans la cabane, au centre d'un cercle fermé. Le temps n'est pas un facteur important ici. Personne n'a de nom. Quand j'aurai besoin d'elle, elle sera là. Elle a 15 ans. Pour l'éternité, sans doute.
Mais moi, alors,
est-ce que je vais rester éternellement un adolescent de 15 ans, enfermé ici? Ou bien est-ce qu'ici, l'âge non plus n'est pas un facteur important?
Je reste debout dans l'entrebâillement de la porte, le regard vaguement fixé sur le paysage, longtemps après que sa silhouette a disparu. Il n'y a ni lune, ni étoile. On aperçoit des lumières derrière quelques fenêtres, des lumières jaunes et vieillottes comme celles de la lampe qui éclaire cette pièce. Mais je ne vois toujours personne, juste ces quelques fenêtres éclairées. Dehors, s'étend le territoire des ombres. Et je sais que, tout au fond de ces ténèbres, se dresse une rangée de crêtes plus sombres encore, et que la forêt profonde entoure cette ville de ses murailles.